La vieille fille, quatrième partie. En ce moment, l'entretien fut interrompu par l'arrivée successive des convives. Dans ces jours d'apparat, cette scène locale amenait de petites familiarités entre les gens de la maison et les personnes invitées. Mariette disait au président du tribunal, gourmand de haut bord, en le voyant passer, « Ah, monsieur du Ronceret, j'ai fait les choux-fleurs au gratin, à votre intention, car mademoiselle sait combien vous les aimez, et m'a dit, « Ne les manque pas, Mariette, nous avons monsieur le président. » « Cette bonne demoiselle Cormon, » répondit le justicier du pays. « Mariette, les avez-vous mouillées avec du jus au lieu de bouillon? C'est plus onctueux. » Le président ne dédaignait point d'entrer dans la chambre du conseil où Mariette rendait ses arrêts. Il y jetait le coup d'œil du gastronome et l'avis du maître. « Bonjour, madame, » disait Josette à madame Granson, qui courtisait la femme de chambre. « Mademoiselle a bien pensé à vous. Vous aurez un plat de poisson. » Quant au chevalier de Valois, il disait à Mariette, avec le ton léger d'un grand seigneur qui se familiarise, « Eh bien, cher cordon bleu, à qui je donnerai la croix de la Légion d'honneur, y a-t-il quelque fin morceau pour lequel il faille se réserver ?»« Oui, oui, monsieur de Valois, un lièvre envoyé du prébaudet. Il pesait 14 livres. « Bonne fille, » disait le chevalier en confirmant Josette. « Ah, il pèse 14 livres !» Du Bousquier n'était pas invité. Mademoiselle Cormon, fidèle au système que vous savez, traitait mal ce quinquagénaire, pour qui elle éprouvait d'inexplicables sentiments attachés au plus profond repli de son cœur. Quoiqu'elle l'eût refusé, parfois, elle s'en repentait. Elle avait tout ensemble comme un pressentiment qu'elle l'épouserait et une terreur qui l'empêchait de souhaiter ce mariage. Son âme, stimulée par ses idées, se préoccupait de Du Bousquier. Sans se l'avouer, elle était influencée par les formes herculéennes du républicain. Quoiqu'il ne s'expliquasse pas les contradictions de mademoiselle Cormon, madame Granson et le chevalier de Valois avaient surpris de naïfs regards coulés en dessous, dont la signification était assez claire pour que tous deux essayassent de ruiner les espérances déjà déjouées de l'ancien fournisseur, et qu'il avait certes conservées. Deux convives, que leur fonction excusait par avance, se faisaient attendre. L'un était monsieur Ducoudray, le conservateur des hypothèques. L'autre, M. Choinel, ancien intendant de la maison de Gordes, le notaire de la haute aristocratie, par laquelle il était reçu avec une distinction que lui méritaient ses vertus, et qui d'ailleurs avait une fortune considérable. Quand ces deux retardataires arrivèrent, Jacquelin leur dit, en les voyant aller au salon, « Ils sont tous au jardin !» Sans doute les estomacs étaient impatients, car à l'aspect du conservateur des hypothèques, un des hommes les plus aimables de la ville, et qui n'avait que le défaut d'avoir épousé pour sa fortune une vieille femme insupportable, et de commettre d'énormes calembours dont il riait le premier. Il s'éleva le léger brouhaha par lequel s'accueillent les derniers venus en semblable occurrence. En attendant l'annonce officielle du service, la compagnie se promenait sur la terrasse, le long de la Brillante, en regardant les herbes fluviatiles, la mosaïque du lit et les détails si jolis des maisons accroupies sur l'autre rive, les vieilles galeries de bois, les fenêtres aux appuis en ruine, les étais obliques de quelques chambres en avant sur la rivière, les jardinets où séchaient les guenilles, l'atelier du menuisier. Enfin, ces misères de petite ville auxquelles le voisinage des eaux, un saule pleureur penché, des fleurs, un rosier, communiquent je ne sais quelle grâce, digne des paysagistes. Le chevalier étudiait toutes les figures, car il avait appris que son brûlot s'était très heureusement attaché aux meilleures coteries de la ville. Mais personne ne parlait encore à haute voix de cette grande nouvelle, de Suzanne et de Du Bousquier. Les gens de province possèdent au plus haut degré l'art de distiller les cancans. Le moment pour s'entretenir de cette étrange aventure n'était pas arrivé. Il fallait que chacun se fût recordé. Donc, on se disait à l'oreille, « Vous savez ?
Oui,
Du Bousquier !
Et la belle Suzanne !
Mademoiselle Cormon n'en sait rien !
Non !
Ah ! » C'était le piano du cancan, dont le rinforzando allait éclater quand on en serait à déguster la première entrée. Tout à coup, Monsieur de Valois avisa Madame Granson, qui avait arboré son chapeau vert à bouquet d'oreilles d'ours, et dont la figure pétillait. Était-ce envie de commencer le concert? Quoiqu'une semblable nouvelle fût comme une mine d'or à exploiter dans la vie monotone de ces personnages, l'observateur et défiant chevalier crut reconnaître chez cette bonne femme l'expression d'un sentiment plus étendu. La joie, causée par le triomphe d'un intérêt personnel. Aussitôt, il se retourna pour examiner Athanase, et le surprit dans le silence significatif d'une concentration profonde. Bientôt, un regard jeté par le jeune homme sur le corsage de Mademoiselle Cormon, lequel ressemblait assez à deux timbales de régiment, porta dans l'âme du chevalier une lueur subite. Cet éclair lui permit d'entrevoir tout le passé.
« Ah, diantre ! » se dit-il, « à quel coup de caveçon je suis exposé !»
Monsieur de Valois se rapprocha de Mademoiselle Cormon pour pouvoir lui donner le bras en la conduisant à la salle à manger. La vieille fille avait pour le chevalier une considération respectueuse. Car certes, son nom et la place qu'il occupait parmi les constellations aristocratiques du département en faisaient le plus brillant ornement de son salon. Dans son fort intérieur, depuis 12 ans, Mademoiselle Cormon désirait devenir Madame de Valois. Ce nom était comme une branche à laquelle s'attachaient les idées qui essaimaient de sa cervelle touchant la noblesse, le rang et les qualités extérieures d'un parti. Mais si le chevalier de Valois était l'homme choisi par le cœur, par l'esprit, par l'ambition, cette vieille ruine, quoique peignée comme le Saint-Jean d'une procession, effrayait Mademoiselle Cormon. Si elle voyait un gentilhomme en lui, la fille ne voyait pas de mari. L'indifférence affectée par le chevalier en fait de mariage, et surtout la prétendue pureté de ses mœurs dans une maison pleine de grisettes, faisait un tort énorme à Monsieur de Valois, contrairement à ses prévisions. Ce gentilhomme, qui avait vu si juste dans l'affaire de la rente viagère, se trompait en ceci. Sans qu'elle s'en doutât, les pensées de Mademoiselle Cormon sur le trop sage chevalier pouvaient se traduire par ce mot. Quel dommage qu'il ne soit pas un peu libertin! Les observateurs du cœur humain ont remarqué le penchant des dévotes pour les mauvais sujets, en s'étonnant de ce goût qu'ils croient opposé à la vertu chrétienne. D'abord, quelle plus belle destinée donneriez-vous à la femme vertueuse que celle de purifier à la manière du charbon les eaux troubles du vice? Mais comment n'a-t-on pas vu que ces nobles créatures, réduites par la rigidité de leurs principes à ne jamais enfreindre la fidélité conjugale, doivent naturellement désirer un mari de haute expérience pratique? Les mauvais sujets sont des grands hommes en amour. Ainsi, la pauvre fille gémissait de trouver son vase d'élection cassé en 2 morceaux. Dieu seul pouvait souder le chevalier de Valois et Du Bousquier. Pour bien faire comprendre l'importance du peu de mots que le chevalier et Mademoiselle Cormon allaient se dire, il est nécessaire d'exposer 2 graves affaires qui s'agitaient dans la ville et sur lesquelles les opinions étaient divisées. Du Bousquier, d'ailleurs, s'y trouvait mystérieusement mêlé. L'une concernait le curé d'Alençon,
qui jadis avait prêté le serment constitutionnel et qui vainquait en ce moment les répugnances catholiques en déployant les plus hautes vertus. Ce fut un cheveu russe au petit pied et si bien apprécié qu'à sa mort la ville entière le pleura. Mademoiselle Cormon et l'abbé de Sponde appartenaient à cette petite église sublime dans son orthodoxie et qui fut à la cour de Rome ce que les ultras allaient être à Louis XVIII. L'abbé surtout ne connaissait pas l'église qui avait transigé forcément avec les constitutionnels. Ce curé n'était point reçu dans la maison Cormon, dont les sympathies étaient acquises aux desservants de Saint-Léonard, la paroisse aristocratique d'Alençon. Du Bousquier, ce libéral enragé caché sous la peau du royaliste, savait combien les points de ralliement sont nécessaires aux mécontents, qui sont le fond de boutique de toutes les oppositions, et il avait déjà groupé les sympathies de la classe moyenne autour de ce curé. Voici la seconde affaire. Sous l'inspiration secrète de ce diplomate grossier, l'idée de bâtir un théâtre était éclose dans la ville d'Alençon. Les séides de Du Bousquier ne connaissaient pas leur Mahomet, mais ils n'en étaient que plus ardents, en croyant défendre leur propre conception. Athanase était un des plus chauds partisans de la construction d'une salle de spectacle, et depuis quelques jours, il plaidait dans les bureaux de la mairie pour une cause que tous les jeunes gens avaient épousée. Le gentilhomme offrit à la vieille fille son bras pour se promener. Elle l'accepta, non sans le remercier, par un regard heureux de cette attention, et auquel le chevalier répondit en montrant Athanase d'un air fin. « Mademoiselle, vous qui portez un si grand sens dans l'appréciation des convenances sociales, et à qui ce jeune homme tient par quelques liens très éloignés, dit-elle en l'interrompant. « Ne devriez-vous pas, dit le chevalier en continuant, user de l'ascendant que vous avez sur sa mère et sur lui pour l'empêcher de se perdre. Il n'est pas déjà très religieux, il tient pour la sermenter. Mais ceci n'est rien, voici quelque chose de beaucoup plus grave. Ne se jette-t-il pas en étourdi dans une voie d'opposition sans savoir quelle influence sa conduite actuelle exercera sur son avenir? Il intrigue pour la construction du théâtre. Il est dans cette affaire la dupe de ce républicain déguisé de Du Bousquier. « Mon Dieu, monsieur de Valois, répondit-elle, sa mère me dit qu'il a de l'esprit, et il ne sait pas dire deux. Il est toujours planté devant vous comme un terne. » « Qui ne pense à rien ? » s'écria le conservateur des hypothèques. « Je l'ai saisi au vol, celui-là. Je présente mes devoirs au chevalier de Valois, » ajouta-t-il en saluant le gentilhomme, avec l'emphase attribuée par Henri Monnier à Joseph Prudhomme, l'admirable type de la classe à laquelle appartenait le conservateur des hypothèques. Monsieur de Valois rendit le salut sec et protecteur du noble qui maintient sa distance. Puis il remorqua Mademoiselle Cormon à quelques pots de fleurs plus loin pour faire comprendre à l'interrupteur qu'il ne voulait pas être espionné. « Comment voulez-vous ? » dit le chevalier à voix basse en se penchant à l'oreille de Mademoiselle Cormon. « Que les jeunes gens élevés dans ces détestables lycées impériaux aient des idées. C'est les bonnes mœurs et les nobles habitudes qui produisent les grandes idées et les belles amours. » Il n'est pas difficile, en le voyant, de deviner que ce pauvre garçon deviendra tout à fait imbécile et mourra tristement. Voyez comme il est pâle, hâve. Sa mère prétend qu'il travaille beaucoup trop, répondit innocemment la vieille fille. Il passe les nuits, mais à quoi? À lire des livres, à écrire? Quel état cela peut-il donner à un jeune homme d'écrire pendant la nuit? « Mais cela l'épuise !» reprit le chevalier en essayant de ramener la pensée de la vieille fille sur le terrain où il espérait lui voir prendre Athanase en horreur. « Les mœurs de ces lycées impériaux étaient vraiment horribles. « Oh oui !» dit l'ingénue Mademoiselle Cormon. « Ne les menait-on pas promener avec les tambours en tête? Leur maître n'avait pas autant de religion qu'en ont les païens. et on mettait ces pauvres enfants en uniforme, absolument comme les troupes. Quelles idées!
Voilà quels en sont les produits, dit le chevalier en montrant Athanase.
De mon temps, un jeune homme aurait-il jamais eu honte de regarder une jolie femme? Et il baisse les yeux quand il vous voit.
Ce jeune homme m'effraie parce qu'il m'intéresse. Dites-lui de ne pas intriguer avec les bonapartistes, comme il fait pour cette salle de spectacle.
Quand ces petits jeunes gens ne la demanderont pas insurrectionnellement, car ce mot est pour moi le synonyme de constitutionnellement, l'autorité la construira. Puis, dites à sa mère de veiller sur lui.
Oh, elle l'empêchera de voir ces gens en demi-solde et la mauvaise société, j'en suis sûre.
Je vais lui parler, dit Mademoiselle Cormon, car il pourrait perdre sa place à la mairie.
Et de quoi lui et sa mère vivraient-ils?
Cela fait frémir.
Comme Monsieur de Talleyrand le disait de sa femme, le chevalier se dit en lui-même, en regardant Mademoiselle Cormon,
comment trouve une plus bête? Foi de gentilhomme, la vertu qui ôte l'intelligence n'est-elle pas un vice? Mais quelle adorable femme pour un homme de mon âge! Quel principe! Quelle ignorance!
Comprenez bien que ce monologue adressé à la princesse Goritza se fit en préparant une prise de tabac. Madame Granson avait deviné que le chevalier parlait d'Athanase. Empressée de connaître le résultat de cette conversation, elle suivit Mademoiselle Cormon qui marchait vers le jeune homme en mettant 6 pieds de dignité en avant d'elle. Mais en ce moment, Jacquelin vint annoncer que Mademoiselle était servie. La vieille fille fit par un regard un appel au chevalier. Le galant conservateur des hypothèques, qui commençait à voir dans les manières du gentilhomme la barrière que vers ces temps les nobles de province exauçaient entre eux et la bourgeoisie, fut ravi de primer le chevalier. Il était près de Mademoiselle Cormon, il arrondit son bras en le lui présentant. Elle fut forcée de l'accepter. Le chevalier se précipita, par politique, sur Madame Granson.
Mademoiselle Cormon, lui dit-il en marchant avec lenteur après tous les convives, ma chère dame, porte le plus vif intérêt à votre cher Athanase. Mais cet intérêt s'évanouit par la faute de votre fils. Il est irréligieux et libéral. Il s'agite pour ce théâtre. Il fréquente les bonapartistes. Il s'intéresse au curé constitutionnel. Cette conduite peut lui faire perdre sa place à la mairie. Vous savez avec quel soin le gouvernement du roi s'épure. Où votre cher Athanase, une fois destitué, trouvera-t-il de l'emploi? Qu'il ne se fasse pas mal voir de l'administration.
Monsieur le chevalier, dit la pauvre mère effrayée. Combien ne vous dois-je pas de reconnaissance? Vous avez raison, mon fils est la dupe d'une mauvaise clique, et je vais l'éclairer.
Le chevalier avait, par un seul regard, pénétré depuis longtemps la nature d'Athanase. Il avait reconnu chez lui l'élément peu malléable des convictions républicaines, auquel, à cet âge, un jeune homme sacrifie tout. Épris par ce mot de liberté si mal défini, si peu compris, mais qui, pour les gens dédaignés, est un drapeau de révolte. Et pour eux, la révolte est la vengeance. Athanase devait persister dans sa foi, car ses opinions étaient tissues avec ses douleurs d'artiste, avec ses amères contemplations de l'état social. Il ignorait qu'à 36 ans, à l'époque où l'homme a jugé les hommes, les rapports et les intérêts sociaux, les opinions pour lesquelles il a d'abord sacrifié son avenir, doivent se modifier chez lui, comme chez tous les hommes vraiment supérieurs. Rester fidèle au côté gauche d'Alençon, c'était gagner l'aversion de Mademoiselle Cormon. Là, le chevalier voyait juste. Ainsi, cette société, si paisible en apparence, était intestinement aussi agité que peuvent l'être les cercles diplomatiques, où la ruse, l'habileté, les passions, les intérêts se groupent autour des plus graves questions d'empire à empire. Les convives bordaient enfin cette table chargée du premier service, et chacun mangeait comme on mange en province, sans honte d'avoir un bon appétit, et non comme à Paris, où il semble que les mâchoires se meuvent par des lois somptuaires qui prennent à tâche de démentir les lois de l'anatomie. À Paris, on mange du bout des dents, on escamote son plaisir. Tandis qu'en province, les choses se passent naturellement, et l'existence s'y concentre peut-être un peu trop sur ce grand et universel moyen d'existence auquel Dieu a condamné ses créatures. Ce fut à la fin du premier service que Mademoiselle Cormon fit la plus célèbre de ses rentrées. Car on en parla pendant plus de 2 ans, et la chose se compte encore dans les réunions de la petite bourgeoisie d'Alençon quand il est question de mariage. La conversation, devenue très verbeuse et animée au moment où l'on attaqua la pénultième entrée, s'était naturellement prise à l'affaire du théâtre et à celle du curé assermenté. Dans la première ferveur où le royalisme se trouvait en 1816, ceux que, plus tard, on appela les jésuites du pays, voulaient expulser l'abbé François de sa cure. Du Bousquier, soupçonné par M. de Valois d'être le soutien de ce prêtre, le promoteur de ses intrigues, et sur le dos duquel le gentilhomme les aurait d'ailleurs mises avec son adresse habituelle, était sur la sellette, sans avocat pour le défendre. Athanase, le seul convive assez franc pour soutenir du Bousquier, ne se trouvait pas posé pour émettre ses idées devant ces potentats d'Alençon, qu'il trouvait d'ailleurs stupides. Il n'y a plus que les jeunes gens de province qui gardent une contenance respectueuse devant les gens d'un certain âge, et n'osent ni les fronder, ni les trop fortement contredire. La conversation, atténuée par l'effet de délicieux canards aux olives, tomba soudain à plat. Mademoiselle Cormon, jalouse de lutter contre ses propres canards, voulut défendre du Bousquier, que l'on représentait comme un pernicieux artisan d'intrigue capable de faire battre des montagnes. « Moi, je croyais que Monsieur du Bousquier ne s'occupait que d'enfantillage. » Dans les circonstances présentes, ce mot eut un prodigieux succès. Mademoiselle Cormon obtint un beau triomphe. Elle fit choir la princesse Goritza le nez contre la table. Le chevalier, qui ne s'attendait point à un à propos chez sa dulcinée, fut si émerveillé qu'il ne trouva pas tout d'abord de mots assez élogieux. Il applaudit sans bruit, comme on applaudit aux Italiens, en simulant du bout des doigts un applaudissement. « Elle est adorablement spirituelle, » dit-il à Madame Granson. « J'ai toujours prétendu qu'un jour elle démasquerait son artillerie. » « Mais dans l'intimité, elle est charmante, » répondit la veuve. « Dans l'intimité, madame, toutes les femmes ont de l'esprit, » reprit le chevalier. Ce rire homérique, une fois apaisé, Mademoiselle Cormon demanda la raison de son succès. Alors commença le forte du cancan. Du Bousquier fut traduit sous les traits d'un père gigogne célibataire, d'un monstre qui, depuis 15 ans, entretenait à lui seul l'hospice des enfants trouvés. L'immoralité de ses mœurs se dévoilait enfin. Elle était digne de ses saturnales parisiennes, etc., etc. Conduite par le chevalier de Valois, le plus habile chef d'orchestre en ce genre, l'ouverture de ce cancan fut magnifique. « Je ne sais pas, » dit-il d'un air plein de bonhomie, « ce qui pourrait empêcher un du Bousquier d'épouser une mademoiselle Suzanne. Je ne sais qui. Comment la nommez-vous, Suzette ? Quoique logée chez madame Lardot, je ne connais ces petites filles que de vue. Si cette Suzon est une grande belle fille, impertinente, œil gris, taille fine, petits pieds, à laquelle j'ai fait à peine attention, mais dont la démarche m'a paru fort insolente. Elle est de beaucoup supérieure comme manière à du Bousquier. D'ailleurs, Suzanne a la noblesse de la beauté. Sous ce rapport, ce mariage serait pour elle une mésalliance. Vous savez que l'empereur Joseph eut la curiosité de voir à Lucienne la du Barry. Il lui offrit son bras pour la promener. La pauvre fille, surprise de tant d'honneur, hésitait à le prendre. « La beauté sera toujours reine, » lui dit l'empereur. « Remarquez que c'était un Allemand d'Autriche, » ajouta le chevalier. « Mais croyez-moi, l'Allemagne, qui passe ici pour très rustique, est un pays de noble chevalerie et de belles manières, surtout vers la Pologne et la Hongrie, où il se trouve des... » Ici, le chevalier s'arrêta, craignant de tomber dans une allusion à son bonheur personnel. Il reprit seulement sa tabatière et confia le reste de l'anecdote à la princesse qui lui souriait depuis 36 ans. « Ce mot était fort délicat pour Louis XV, » dit du Ronceret. « Mais il s'agit, je crois, de l'empereur Joseph, » reprit mademoiselle Cormon d'un petit air entendu. « Mademoiselle, » dit le chevalier en voyant le président, le notaire et le conservateur échangeant des regards malicieux. « Madame du Barry était la Suzanne de Louis XV, circonstance assez connue de mauvais sujets comme nous autres, mais que ne doivent pas savoir les jeunes personnes. Votre ignorance prouve que vous êtes un diamant sans tache. Les corruptions historiques ne vous atteignent point. » L'abbé de Spondre regarda gracieusement le chevalier de Valois et inclina la tête en signe d'approbation laudative. « Mademoiselle ne connaît pas l'histoire ?» dit le conservateur des hypothèques. « Si vous me mêlez Louis XV et Suzanne, comment voulez-vous que je sache votre histoire ?» répondit angéliquement mademoiselle Cormon, joyeuse de voir le plat de canard vide et la conversation si bien ranimée, qu'en entendant ce dernier mot, tous ses convives riaient la bouche pleine. « Pauvre petite, » dit l'abbé de Sponde, « quand un malheur est venu, la charité, qui est un amour divin, aussi aveugle que l'amour païen, ne doit plus voir la cause. Ma nièce, vous êtes présidente de la société de maternité. Il faut secourir cette petite fille qui trouvera difficilement à se marier. Pauvre enfant, dit mademoiselle Cormon. Croyez-vous que Dubousquier l'épouse? Demanda le président du tribunal. S'il était honnête homme, il le devrait, dit madame Granson. Mais vraiment, mon chien a des mœurs plus honnêtes. Azor est cependant un grand fournisseur, dit d'un air fin le conservateur des hypothèques en essayant de passer du calembour au bon mot. Au dessert, il était encore question de Dubousquier, qui avait donné lieu à 1000 gentillesses que le vin rendit fulminantes. Chacun, entraîné par le conservateur des hypothèques, répondait à un calembour par un autre. Ainsi, Dubousquier était un père sévère, un père manant, un père sifflé, un père vert, un père rond, un père foré, un père dû, un père sicaire. Il n'était ni père ni mère, ni un révérend père, il jouait à père ou non. Ce n'était pas non plus un père conscrit. Ce n'est toujours pas un père nourricier, dit l'abbé de Sponde avec une gravité qui arrêta le rire. « Ni un père noble, » reprit le chevalier de Valois. L'Église et la noblesse étaient descendues dans l'arène du calembour en conservant toute leur dignité. « Chut !» fit le conservateur des hypothèques. « J'entends crier les bottes de Dubousquier, qui, certes, sont plus que jamais à revers. » Il arrive presque toujours qu'un homme ignore les bruits qui courent sur son compte. Une ville entière s'occupe de lui, le calomnie ou le tympanise. S'il n'a pas d'amis, il ne saura rien. Or, l'innocent Dubousquier, Dubousquier qui souhaitait être coupable et désirait que Suzanne n'eût pas menti, Dubousquier fut superbe d'ignorance. Personne ne lui avait parlé des révélations de Suzanne, et tout le monde trouvait d'ailleurs inconvenant de le questionner sur une de ses affaires, où l'intéressé possède quelquefois des secrets qui l'obligent à garder le silence. Dubousquier parut donc très agaçant et légèrement fat, quand la société revint de la salle à manger pour prendre le café dans le salon, où quelques personnes étaient déjà venues pour la soirée. Mademoiselle Cormon, conseillée par sa honte, n'osa regarder le terrible séducteur. Elle s'était emparée d'Athanase, qu'elle moralisait en lui débitant les plus étranges lieux communs de politique royaliste et de morale religieuse. Ne possédant pas, comme le chevalier de Valois, une tabatière ornée de princesses pour essuyer ses douches de niaiserie, le pauvre poète écoutait d'un air stupide celle qu'il adorait, en regardant son monstrueux corsage qui gardait ce repos absolu, l'attribut des grandes masses. Ses désirs produisaient en lui comme une ivresse, qui changeait la petite voix claire de la vieille fille en un doux murmure, et ses plates idées en motifs pleins d'esprit. L'amour est un faux monnayeur qui change continuellement les gros sous en louis d'or, et qui souvent aussi fait de ses louis des gros sous. « Eh bien, Athanase, me le promettez-vous ?» Cette phrase finale frappa l'oreille de l'heureux jeune homme à la manière de ces bruits qui réveillent en sursaut. « Quoi, mademoiselle ? » répondit-il. Mademoiselle Cormon se leva brusquement en regardant du Bousquier, qui ressemblait en ce moment à ce gros dieu de la fable que la République mettait sur ses écus. Elle s'avança vers madame Granson et lui dit à l'oreille. « Ma pauvre amie, votre fils est idiot. Le lycée l'a perdu. » dit-elle en se souvenant de l'insistance avec laquelle le chevalier de Valois avait parlé de la mauvaise éducation des lycées. Quel coup de foudre ! À son insu, le pauvre Athanase avait eu l'occasion de jeter ses brandons sur les sarments amassés dans le cœur de la vieille fille. S'il l'eût écouté, il aurait pu faire comprendre sa passion, car dans l'agitation où se trouvait mademoiselle Cormon, un seul mot suffisait. Mais cette stupide avidité qui caractérise l'amour jeune et vrai l'avait perdue, comme quelquefois un enfant plein de vie se tue par ignorance. « Qu'as-tu donc dit à mademoiselle Cormon ? » demanda madame Granson à son fils. « Rien ?
Rien, j'expliquerai cela. »
se dit-elle en remettant à deux mains les affaires sérieuses, car elle attacha peu d'importance à ce mot en croyant du Bousquier perdu dans l'esprit de la vieille fille. Bientôt, les quatre tables se garnirent de leurs 16 joueurs. Quatre personnes s'intéressèrent à un piquet, le jeu le plus cher et auquel il se perdait beaucoup d'argent. Monsieur Choinel, le procureur du roi et deux dames, allèrent faire un tric-trac dans le cabinet des Lacs Rouges. Les girandoles furent allumées. Puis la fleur de la société de mademoiselle Cormon vint s'épanouir devant la cheminée, sur les bergères, autour des tables, après que chaque nouveau couple arrivé eût dit à mademoiselle Cormon « Vous allez donc demain au Prébaudet ?»«
Mais il le faut bien, » répondait-elle.
Généralement, la maîtresse de la maison parut préoccupée. Madame Granson, la première, s'aperçut de l'état peu naturel où se trouvait la vieille fille. Mademoiselle Cormon pensait « À quoi songez-vous, cousine ?» lui dit-elle enfin en la trouvant assise dans le boudoir.
« Je pense, répondit-elle, à cette pauvre fille. Ne suis-je pas présidente de la société maternelle ? Je vais vous aller chercher 10 écus. »«
10 écus ? » s'écria madame Granson. « Mais vous n'avez jamais donné autant !»«
Mais ma bonne, il est si naturel d'avoir des enfants !»
Cette phrase immorale, partie du cœur, stupéfia la trésorière de la société maternelle. Du Bousquier avait évidemment grandi dans l'esprit de mademoiselle Cormon.
« Vraiment ? » dit madame Granson. « Du Bousquier n'est pas seulement un monstre, il est encore un infâme. » Lorsqu'on a causé préjudice à quelqu'un, ne doit-on pas l'indemniser ? Ne serait-ce pas à lui, plutôt qu'à nous, de secourir cette petite, qui, après tout, me semble un fort mauvais sujet, car il y avait dans Alençon mieux que ce cynique du Bousquier. Il faut être bien libertine pour s'adresser à lui.
Cynique ? Votre fils vous apprend, ma chère, des mots latins qui sont incompréhensibles. « Certes, je ne veux pas excuser Monsieur du Bousquier, mais expliquez-moi comment une femme est libertine en préférant un homme à un autre. » chère cousine. Vous épouseriez mon fils Athanase, il n'y aurait là rien que de très naturel. Il est jeune et beau, plein d'avenir, il sera la gloire d'Alençon. Seulement, tout le monde penserait que vous avez pris un si jeune homme pour être très heureuse. Les mauvaises langues diraient que vous faites vos provisions de bonheur pour n'en jamais manquer. Il y aurait des femmes jalouses qui vous accuseraient de dépravation. Mais qu'est-ce que cela ferait? Vous seriez bien aimée, et véritablement. Si Athanase vous paraît idiot, ma chère, c'est qu'il a trop d'idées. Les extrêmes se touchent. Il vit, certes, comme une jeune fille de 15 ans. Il n'a pas roulé dans les impuretés de Paris, lui. Eh bien, changez les termes, comme disait mon pauvre mari. Il en est de même de Dubousquier par rapport à Suzanne. Vous seriez calomnié, vous. Mais dans l'affaire de Dubousquier, tout est vrai. Comprenez-vous? Pas plus que si vous me parliez grec, dit mademoiselle Cormon, qui ouvrait de grands yeux, entendant toutes les forces de son intelligence. Eh bien, cousine, puisqu'il faut mettre les points sur les i, Suzanne ne peut pas aimer Dubousquier. Et si le cœur n'est pour rien dans cette affaire... Mais, cousine, avec quoi aime-t-on donc, si l'on n'aime pas avec le cœur? Ici, madame Granson se dit en elle-même ce qu'avait pensé le chevalier de Valois. « Cette pauvre cousine est par trop innocente, cela passe la permission. »« Cher enfant, » reprit-elle à haute voix, « il me semble que les enfants ne se conçoivent pas uniquement par l'esprit. » « Mais si, ma chère, car la Sainte Vierge... »« Mais ma bonne, Dubousquier n'est pas le Saint-Esprit. »« C'est vrai, » répondit la vieille fille. « C'est un homme que sa tournure rend assez dangereux pour que ses amis l'engagent à se marier. »« Vous pouvez, cousine, amener ce résultat. »« Et comment ?» dit la vieille fille avec l'enthousiasme de la charité chrétienne. « Ne le recevez plus jusqu'à ce qu'il ait pris une femme. Vous devez aux bonnes mœurs et à la religion de manifester en cette circonstance une exemplaire réprobation. À mon retour du Prébaudet, nous reparlerons de ceci, ma chère madame Granson. Je consulterai mon oncle et l'abbé Couturier, » dit mademoiselle Cormon en rentrant dans le salon, qui se trouvait en ce moment à son plus haut degré d'animation. Les lumières, les groupes de femmes bien mises, le ton solennel, l'air magistral de cette assemblée, ne rendaient pas mademoiselle Cormon moins fière que sa société de cette tenue aristocratique. Pour beaucoup de gens, on ne voyait pas mieux à Paris dans les meilleures compagnies. Dans ce moment, Dubousquier, qui jouait au whist avec M. de Valois et deux vieilles dames, Madame du Coudray et Madame du Ronceret, était l'objet d'une curiosité sourde. Il venait quelques jeunes femmes qui, sous prétexte de regarder jouer, le contemplaient si singulièrement, quoiqu'à la dérobée, que le vieux garçon finit par croire à quelque oubli dans sa toilette. « Mon faux toupet serait-il de travers ?» se dit-il en éprouvant une de ces inquiétudes capitales auxquelles sont soumis les vieux garçons. Il profita d'un mauvais coup qui terminait un septième rubère pour quitter la table. « Je ne peux pas toucher une carte sans perdre, » dit-il. « Je suis décidément trop malheureux. »« Vous êtes heureux ailleurs, » dit le chevalier en lui lançant un fin regard. Ce mot fit naturellement le tour du salon, où chacun se récria sur le ton exquis du chevalier, le prince de Talleyrand du pays. « Il n'y a que monsieur de Valois pour trouver ces sortes de choses, » dit la nièce du curé de Saint-Léonard. Dubousquier s'alla regarder dans la petite glace oblongue au-dessus du déserteur, et ne se trouva rien d'extraordinaire. Après d'innombrables répétitions du même texte varié sur tous les modes, vers 10 heures, le départ s'opéra le long de l'embarcadère de la longue antichambre, non sans quelque conduite faite par mademoiselle Cormon à ses favorites qu'elle embrassait sur le perron. Les groupes s'en allaient, les uns vers la route de Bretagne et le château, les autres vers le quartier qui regarde la Sarthe. Alors commençaient les discours, qui depuis 20 ans retentissaient à cette heure dans cette rue. C'était inévitablement. Mademoiselle Cormon était bien ce soir. Mademoiselle Cormon, je l'ai trouvée singulière.
Comme ce pauvre abbé baisse. Avez-vous vu comme il dort? Il ne sait plus où sont ses cartes. Il a des distractions.
Nous aurons le chagrin de le perdre.
Il fait beau ce soir. Nous aurons une belle journée demain.
Un beau temps pour que les pommiers passent fleurs.
Vous nous avez battus, mais quand vous êtes avec monsieur de Valois, vous n'en faites jamais d'autres.
Combien a-t-il donc gagné?
Mais ce soir, il a gagné 3 ou 4 francs. Il ne perd jamais.
Oui, ma foi, savez-vous qu'il y a 365 jours dans l'année et qu'à ce prix-là, son jeu vaut une ferme.
Ah, quel coup nous avons essuyé ce soir!
Vous êtes bien heureux, monsieur et madame. Vous voilà chez vous. Mais nous, nous avons la moitié de la ville à faire.
Je ne vous plains pas. Vous pourriez avoir une voiture et vous dispenser de venir à pied.
Ah, monsieur, nous avons une fille à marier qui nous ôte une roue, et l'entretien de notre fils à Paris nous emporte l'autre.
Vous en faites toujours un magistrat?
Que voulez-vous que l'on fasse des jeunes gens?
Et puis, il n'y a pas de honte à servir le roi.
Parfois, une discussion sur les cidres ou sur les lins, toujours posée dans les mêmes termes et qui revenait aux mêmes époques, se continuait en chemin. Si quelque observateur du cœur humain eût demeuré dans cette rue, il aurait toujours su dans quel mois il était, en entendant cette conversation. Mais en ce moment, elle fut exclusivement drôlatique, car du Bousquier, qui marchait seul en avant des groupes, fredonnait sans se douter de l'à-propos. L'air fameux de « Femme sensible, entends-tu le ramage ?» etc. Pour les uns, du Bousquier était un homme très fort, un homme mal jugé. Depuis qu'il avait été confirmé dans son poste par une nouvelle institution royale, le président du Ronceret inclinait vers du Bousquier. Pour les autres, le fournisseur était un homme dangereux, de mauvaises mœurs, capable de tout. En province, comme à Paris, les hommes en vue ressemblent à cette statue du beau conte allégorique d'Addison, pour laquelle 2 chevaliers se battent en arrivant, chacun de leur côté, au carrefour où elle s'élève. L'un la dit blanche, l'autre la tient pour noire. Puis, quand ils sont tous deux à terre, ils la voient blanche à droite et noire à gauche. Un 3e chevalier vient à leur secours et la trouve rouge. En rentrant chez lui, le chevalier de Valois se disait « Il est temps de faire courir le bruit de mon mariage avec Mademoiselle Cormon. La nouvelle sortira du salon de Mademoiselle de Gordes, ira droit à 16 chez l'évêque, reviendra par les grands vicaires chez le curé de Saint-Léonard, qui ne manquera pas de le dire à l'abbé Couturier. Ainsi, Mademoiselle Cormon recevra ce boulet ramé dans ses œuvres vives. Le vieux marquis de Gordes invitera l'abbé de Sponde à dîner, afin d'arrêter un cancan qui ferait tort à Mademoiselle Cormon, si je me prononçais contre elle, à moi, si elle me refusait. L'abbé sera bien et dûment entortillé. Puis Mademoiselle Cormon ne tiendra pas contre une visite de Mademoiselle de Gordes, qui lui démontrera la grandeur et l'avenir de cette alliance. L'héritage de l'abbé vaut plus de 100 000 écus. Les économies de la fille doivent monter à plus de 200 000 livres. Elle a son hôtel, le prébaudet et 15 000 livres de rente. Un mot à mon ami le comte de Fontaine, et je deviens maire d'Alençon, député. Puis, une fois assis sur les bancs de la droite, nous arriverons à la pairie en criant « La clôture !» ou « À l'ordre !» Rentrée chez elle, Madame Granson eut une vive explication avec son fils, qui ne voulut pas comprendre la liaison qui existait entre ses opinions et ses amours. Ce fut la première querelle qui troubla l'harmonie de ce pauvre ménage. Le lendemain, à 9 heures, mademoiselle Cormon, emballée dans sa carriole avec Josette, et qui se dessinait comme une pyramide sur l'océan de ses paquets, montait la rue Saint-Blaise pour se rendre au Prébaudet, où devait la surprendre l'événement qui précipita son mariage, et que ne pouvait prévoir ni madame Granson, ni du Bousquier, ni monsieur de Valois, ni mademoiselle Cormon. Le hasard est le plus grand de tous les artistes. Le lendemain de son arrivée au Prébaudet, mademoiselle Cormon était fort innocemment occupée, sur les 8 heures du matin, à écouter pendant son déjeuner les divers rapports de son garde et de son jardinier, lorsque Jacquelin fit une vigoureuse irruption dans la salle à manger. « Mademoiselle, dit-il tout ébouriffé, monsieur votre oncle vous expédie un express, le fils à la mère Grosmort, avec une lettre. Le gars est parti d'Alençon avant le jour, et ne le voilà pas moins arrivé. Il a couru presque comme Pénélope. Faut-il lui donner un verre de vin ? »
« Qu'a-t-il pu arriver, Josette ? Mon oncle serait-il... »«
Il n'écrirait pas, » dit la femme de chambre en devinant les craintes de sa maîtresse.
« Vite, vite !» s'écria mademoiselle Cormon après avoir lu les premières lignes. « Que Jacquelin a-t-elle Pénélope ? Arrange-toi, ma fille, pour avoir tout remballé dans une demi-heure, » dit-elle à Josette. « Nous retournons à la ville. »«
Jacquelin !» cria Josette, excitée par le sentiment qu'exprima le visage de mademoiselle Cormon. Jacquelin, instruit par Josette, arriva, disant «
Mais, mademoiselle, Pénélope mange son avoine.
Hé, qu'est-ce que cela me fait? Je veux partir à l'instant. »
« Mais, mademoiselle, il va pleuvoir.
Eh bien, nous serons mouillés. »
« Le feu est à la maison !» dit en murmurant Josette, piquée du silence que gardait sa maîtresse en achevant la lettre, la lisant et relisant.
« Achevez donc au moins votre café, ne vous tournez pas le sang, regardez comme vous êtes rouge. »«
Je suis rouge, Josette, » dit-elle en allant se regarder dans une glace dont le teint tombait et qui lui offrit l'image de ses traits doublement renversés.
« Mon Dieu !» pensa mademoiselle Cormon. « Si j'allais être laide !»«
Allons, Josette, allons, ma fille, habille-moi. Je veux être prête avant que Jacquelin n'ait attelé Pénélope. Si tu ne peux remettre mes paquets dans la voiture, je les laisserai ici, plutôt que de perdre une minute. »
Si vous avez bien compris l'excès de monomanie à laquelle le désir de se marier avait fait arriver mademoiselle Cormon, vous partagerez son émotion. Le digne oncle annonçait à sa nièce que monsieur de Troisville, ancien militaire au service de Russie, petit-fils d'un de ses meilleurs amis, souhaitait se retirer à Alençon et lui demander l'hospitalité, en se recommandant de l'amitié que l'abbé portait à son grand-père, le comte de Troisville, chef d'escadre sous Louis XV. L'ancien vicaire général, épouvanté, priait instamment sa nièce de revenir pour l'aider à recevoir leur hôte et à lui faire les honneurs de la maison, car la lettre avait éprouvé quelque retard. Monsieur de Troisville pouvait lui tomber sur les bras dans la soirée. À la lecture de cette lettre, pouvait-il être question des soins que demandait le prébaudet? En ce moment, le garde et le fermier, témoins de l'effarouchement de leur maîtresse, se tenaient quoi en attendant ses ordres. Quand ils l'arrêtèrent au passage afin d'obtenir leurs instructions, pour la première fois de sa vie, mademoiselle Cormon, la despotique vieille fille qui voyait tout par elle-même au prébaudet, leur dit un « comme vous voudrez » qui les frappa de stupéfaction. Car leur maîtresse poussait le soin administratif jusqu'à compter ses fruits et les enregistrait par sorte afin de diriger la consommation suivant le nombre de chaque espèce de fruit.
« Je crois rêver !» dit Josette en voyant sa maîtresse volant par les escaliers comme un éléphant auquel Dieu aurait donné des ailes.
Bientôt, malgré une pluie battante, mademoiselle sortit du prébaudet, laissant à ses gens la bride sur le cou. Jacquelin n'osa prendre sur lui de presser le petit trot habituel de la paisible Pénélope, qui, semblable à la belle reine dont elle portait le nom, avait l'air de faire autant de pas en arrière qu'elle en faisait en avant. Voyant cette allure, mademoiselle ordonna d'une voix aigre à Jacquelin d'avoir à faire galoper, à coups de fouet s'il le fallait, la pauvre jument étonnée. Tant elle avait peur de ne pas avoir le temps d'arranger convenablement la maison pour recevoir monsieur de Troisville. Elle calculait que le petit-fils d'un ami de son oncle pouvait n'avoir que 40 ans. Un militaire devait être immanquablement garçon. Elle se promettait donc, son oncle aidant, de ne pas laisser sortir du logis monsieur de Troisville dans l'état où il y entrerait. Quoique Pénélope galopât, mademoiselle Cormon, occupée de ses toilettes et rêvant une première nuit de noces, dit plusieurs fois à Jacquelin qu'il n'avançait pas. Elle se remuait dans la carriole sans répondre aux demandes de Josette, et se parlait à elle-même comme une personne qui roule de grands desseins. Enfin, la carriole atteignit la grande rue d'Alençon, qui s'appelle la rue Saint-Blaise, en y entrant du côté de Mortagne. Mais vers l'hôtel du Mort, elle prend le nom de la rue de la Porte de Sèze et devient la rue du Bercail en débouchant sur la route de Bretagne. Si le départ de mademoiselle Cormon faisait grand bruit dans Alençon, chacun peut imaginer le tapage que dut y faire son retour le lendemain de son installation au Prébaudet, et par une pluie battante qui lui fouettait le visage sans qu'elle parût en prendre souci. Chacun remarqua le galop fou de Pénélope, l'air narquois de Jacquelin, l'heure matinale, les paquets sans dessus-dessous, enfin la conversation animée de Josette et de mademoiselle Cormon, leur impatience surtout. Les biens de monsieur de Troisville se trouvaient situés entre Alençon et Mortagne. Josette connaissait les branches diverses de la famille de Troisville. Un mot dit par mademoiselle en atteignant le pavé d'Alençon avait mis Josette au fait de l'aventure. La discussion s'était établie entre elles, et toutes deux avaient arrêté que le de Troisville attendu devait être un gentilhomme entre 40 et 42 ans, garçon, ni riche ni pauvre. Mademoiselle se voyait comtesse ou vicomtesse de Troisville. « Et mon oncle qui ne me dit rien, qui ne sait rien, qui ne s'informe de rien. Oh, comme c'est mon oncle, il oublierait son nez s'il ne tenait pas à son visage. » N'avez-vous pas remarqué que dans ces sortes de circonstances, les vieilles filles deviennent comme Richard III, spirituelles, féroces, hardies, prometteuses, et, comme des clercs grisés, ne respectent plus rien. Aussitôt, la ville d'Alençon, instruite en un moment, du haut de la rue Saint-Blaise jusqu'à la porte de Sèze, de ce retour précipité et accompagné de circonstances graves, fut perturbée dans tous ses viscères publics et domestiques. Les cuisinières, les marchands, les passants se dirent cette nouvelle de porte à porte. Puis elle monta dans la région supérieure. Bientôt ces mots « Mademoiselle Cormon est revenue » éclatèrent comme une bombe dans tous les ménages. En ce moment, Jacquelin quittait le banc de bois poli par un procédé qu'ignorent les ébénistes et où il était assis sur le devant de la carriole. Il ouvrait lui-même la grande porte verte, ronde par le haut, fermée en signe de deuil, car pendant l'absence de mademoiselle Cormon, l'assemblée n'avait pas lieu. Les fidèles festoyaient alors tour à tour l'abbé de Sponde. Monsieur de Valois payait sa dette en l'invitant à dîner chez le marquis de Gordes. Jacquelin appela familièrement Pénélope, qu'il avait laissée au milieu de la rue. La bête, habituée à ce manège, tourna d'elle-même, enfila la porte, détourna dans la cour de manière à ne pas endommager le massif de fleurs. Jacquelin la reprit par la bride et mena la voiture devant le paron. « Mariette !» cria mademoiselle Cormon. Mais Mariette était occupée à fermer la grande porte. « Mademoiselle ?»« ce monsieur n'est pas venu ?»«
Non, mademoiselle. »«
Et mon oncle ?»«
Mademoiselle, il est à l'église. »
Jacquelin et Perrotte étaient en ce moment sur la première marche du perron et tendaient leurs mains pour manœuvrer leur maîtresse, sortie de la carriole et qui se hissait sur le brancard en s'accrochant au rideau. Mademoiselle se jeta dans leurs bras, car depuis 2 ans elle ne voulait plus se risquer à se servir du marchepied en fer et à double maille fixé dans le brancard par un horrible mécanisme à gros boulons. Quand mademoiselle Cormon fut sur le haut du perron, elle regarda sa cour d'un air de satisfaction. « Allons, allons, Mariette, laissez la grande porte et venez ici. »«
Le torchon brûle, »
dit Jacquelin à Mariette quand la cuisinière passa près de la carriole.
« Voyons, mon enfant, quelle provision as-tu ? »
dit mademoiselle Cormon en s'asseyant sur la banquette de la longue antichambre comme une personne excédée de fatigue.
« Mais je n'ai rien, »
dit Mariette en se mettant les poings sur les hanches.
« Mademoiselle sait bien que pendant son absence, monsieur l'abbé dîne toujours en ville. Hier, je suis allée le quérir chez mademoiselle de Gordes. »«
Où est-il donc ?»«
Monsieur l'abbé, il est à l'église. Il ne rentrera qu'à 3 heures. »«
Il ne pense à rien, mon oncle. N'aurait-il pas dû te dire d'aller au marché ?»«
Mariette, vas-y. Sans jeter l'argent, n'épargne rien. Prends-y tout ce qu'il y aura de bien, de bon, de délicat. » Va t'informer aux diligences comment l'on se procure des pâtés. Je veux des écrevisses des rues de la Brillante. Quelle heure est-il ?
9h15.
Mon Dieu, Mariette, ne perds pas le temps à babiller. La personne attendue par mon oncle peut arriver d'un instant à l'autre. S'il fallait lui donner à déjeuner, nous serions de jolis cœurs.
Mariette se retourna vers Pénélope en sueur et regarda Jacquelin d'un air qui voulait dire
« Mademoiselle va mettre la main sur un mari, cette fois. »«
À nous deux, Josette, » reprit la vieille fille, « car il faut voir accoucher monsieur de Troisville. »
Avec quel bonheur cette phrase fut prononcée. « Voir accoucher monsieur de Troisville. » Prononcée très vile. Combien d'idées dans ce mot. La vieille fille était inondée d'espérance.
« Voulez-vous le coucher dans la chambre verte ?»«
Celle de monseigneur l'évêque, non, elle est trop près de la mienne, » dit mademoiselle Cormon.
« Bon pour monseigneur, qui est un saint homme. »«
Donnez-lui l'appartement de votre oncle. »«
Il est si nu que ce serait indécent. »«
Dame, mademoiselle, faites arranger en 2 temps un lit dans votre boudoir, il y a une cheminée. »
Moreau trouvera bien dans ses magasins un lit à peu près pareil à l'étoffe de la tenture.
Tu as raison, Josette. Eh bien, cours chez Moreau. Consulte avec lui sur tout ce qu'il faut faire. Je t'y autorise.
Si le lit de monsieur de Tréville, peut être monté ce soir sans que monsieur de Tréville s'en aperçoive, au cas où monsieur de Tréville nous viendrait pendant que Moreau serait là, je le veux bien. Si Moreau ne s'y engage pas, je mettrai monsieur de Tréville dans la chambre verte, quoique monsieur de Tréville sera là bien près de moi. »
Josette s'en allait, sa maîtresse la rappela.
« Explique tout à Jacquelin !»
s'écria-t-elle d'une voix formidable et pleine d'épouvante.
« Qu'il aille lui-même chez Moreau !»«
Ma toilette, donc ! Si j'étais surprise ainsi par monsieur de Tréville, sans mon oncle pour le recevoir... Oh, mon oncle, mon oncle !» « Viens, Josette, tu vas m'habiller. »«
Mais, Pénélope !»
dit imprudemment Josette. Les yeux de mademoiselle Cormon étincelèrent pour la seule fois de sa vie.
« Toujours Pénélope ! Pénélope par-ci, Pénélope par-là ! Est-ce donc Pénélope qui est la maîtresse ?»«
Mais elle est en âge et n'a pas mangé l'avoine. »«
Hé, qu'elle crève !»
s'écria mademoiselle Cormon.
« Mais que je me marie !» pensa-t-elle.
En entendant ce mot qui lui parut un homicide, Josette resta pendant un moment interdite, puis elle dégringola le perron à un geste que lui fit sa maîtresse.
« Mademoiselle a le diable au corps, Jacquelin !»
fut la première parole de Josette. Ainsi, tout fut d'accord dans cette journée
pour produire le grand coup de théâtre qui décida de la vie de Mademoiselle Cormon.